Europe 1.
Il est 18h02, nous sommes en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Louis de Ragnel, journaliste. Bonsoir Louis.
Bonsoir Laurent.
Avec Rachel Kahn, essayiste et juriste. Merci bonsoir, d'être là. Nous a rejoint Joseph Massescaron, essayiste. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes avec Vincent Hervouette, éditorialiste spécialiste de politique étrangère. Bonsoir mon cher bonsoir. Vincent. Mona Jafarian est présente. Vous êtes iranienne, cofondatrice du collectif Femmes Azidis, et François Pupponi qui est ancien député. Bonsoir à bonsoir. Tous. On va évoquer évidemment tout de suite cette attaque de l'Iran contre Israël avec ses centaines de drones et de missiles qui ont été tirés dans la nuit de samedi à dimanche. J'aimerais tout de suite qu'on parle, si vous le voulez bien, à Tel Aviv, rejoindre notre envoyée spéciale Régine Delfour. Bonsoir Régine. Dans quel état d'esprit sont les Israéliens? Alors on entend beaucoup parler de désescalade et de retenue. Qu'est-ce qu'ils pensent, eux?
Il faut savoir que les Israéliens étaient au courant par les autorités que l'Iran allait mener une attaque, mais ils ne pensaient pas qu'elle serait d'une telle ampleur. Et pour eux, il n'y a aucun doute, il faut une riposte. Ils ne sont pas tous d'accord sur l'intensité de cette riposte. Certains veulent une riposte ciblée, mais pas dans l'immédiat. D'autres veulent une réponse immédiate et massive. Il ne faut pas oublier, j'ai échangé tout à l'heure avec un habitant du nord d'Israël, il ne faut pas oublier que 100 000 personnes sont, depuis 7 mois, sont toujours déplacés et du nord et ne peuvent toujours pas regagner non plus leur maison. Et pour eux, c'est important de répondre aussi à l'Iran. C'est important d'avoir cette réponse. Et beaucoup d'Israéliens me disent aussi que pour eux, derrière les attaques du 7 octobre, eh bien, c'est l'Iran qui est derrière. Et il reste encore 133 otages qui restent dans la bande de Gaza.
Jeanne Delfour, on n'oublie pas évidemment ces otages. Mona Jafarian, vous êtes iranienne. Vous vous dites que ce ne sont pas les Iraniens qui sont derrière ces attaques. C'est la République islamique et c'est très différent.
C'est très différent puisqu'effectivement la République islamique est aujourd'hui une force colonisatrice islamiste qui est à la tête d'un pays dans lequel le peuple est censé être souverain. Et on a la quasi-totalité du peuple iranien aujourd'hui qui est en train de se battre pour faire tomber ce régime, pour la laïcité, pour des valeurs universelles et humanistes. Et un peuple qui a de plus en plus de mal à comprendre pourquoi il y a un tel silence de l'Occident alors qu'ils sont peut-être le principal rempart aujourd'hui contre le terrorisme et l'intégrisme qui nous touchent nous-mêmes ici.
Mmh, absolument, Rachel Kahn. Effectivement, on a oublié ce qui se passe en Iran, cette révolte des femmes, de la population, de la jeunesse. Et aujourd'hui, quand on parle de l'Iran, on ne parle pas de cette population-là.
Exactement, exactement. Alors que cette population se bat effectivement pour la liberté, elle se bat de manière, malgré justement le chaos qui les touche, de manière universaliste. Je me rappelle moi de Mona, notamment le 8 mars, qui a pris la parole pour un féminisme universaliste. Mm-hmm. Et avec cette pensée pour les femmes retenues dans les tunnels du Hamas et qui ont vécu une barbarie sans nom. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que l'Occident tourne le regard alors même que leur situation nous touche profondément.
J'aimerais qu'on écoute Emmanuel Macron avant de vous passer la parole, Vincent Hervouette, Joseph Massescaron, François Pupponi et Louis de Ragnel. Emmanuel Macron qui a ce maintenant rappelé que l'Iran avait franchi un cap avec cette attaque lancée ce week-end. Écoutez-le.
Les Iraniens ont répondu. Mais ils ont répondu de manière, si je puis dire, disproportionnée, parce qu'au lieu d'aller toucher des intérêts israéliens en dehors d'Israël, eh bien, ils ont été chercher Israël sur son sol, depuis leur sol, ce qui est une première. C'est un changement, une rupture profonde. Et donc, c'est pour ça que ce qui s'est ouvert est très dangereux en termes de réaction. Donc, très clairement, c'est l'Iran qui a décidé de frapper Israël dans le contexte d'une manière inédite.
Cette volonté de l'Iran d'attaquer Israël, Vincent Hervouette, comment est-ce que vous l'interprétez aujourd'hui? Il y a de nombreuses informations qui ont été publiées depuis samedi soir. Est-ce que vous avez une vision claire de ce qu'a voulu faire l'Iran?
C'est une bonne question, il faudrait une vision claire. Bon, je ne crois pas que ce soit une réponse disproportionnée d'abord. Je pense que c'est une réponse qui a été soigneusement calibrée. La guerre entre la République islamique et Israël, ça dure depuis 45 ans. C'est une guerre fantôme. On est passé samedi soir à une sorte de corps à corps. Dire que pour la première fois, effectivement, l'assaut venait directement d'Israël, était revendiqué, assumé comme tel. Sauf que les Iraniens ont consciencieusement désamorcé la bombe qu'ils lançaient. Ils ont créé à la fois un précédent.
C'est paradoxal, mais bon.
Oui, non, ils ont franchi un Rubicon, ils ont en quelque sorte assumé cette agression, cette attaque, qui répondait à leurs yeux à une attaque qui avait été portée contre leur propre territoire, puisqu'ils considèrent que l'ambassade à Damas, l'ambassade d'Iran à Damas, qui a été bombardée par les Israéliens, sans que les Israéliens les revendiquaient, mais qui a été signée par les Israéliens était une attaque contre leur territoire. Ils ont répondu d'eux-mêmes, sauf que pour un œil, il y a les deux yeux. Sauf que vous avez eu 300 à 400 engins dans le ciel, hein, des drones,
des
missiles de croisière, tous ont été neutralisés. Quelques missiles quand même balistiques qui sont passés, ce qui est aussi un avertissement important, hein, parce que ils étaient chargés d'explosifs ordinaires, mais ils pourraient être chargés demain d'autres choses. Et vous avez eu donc un énorme feu d'artifice, zéro mort. Un énorme feu d'artifice,
donc,
zéro mort.
C'était le but donc, recherché, Vincent.
C'est une attaque disproportionnée. Et que ça s'était passé ailleurs dans le monde, si c'était moins grave, je ne veux pas rappeler ce qu'a fait l'Iran dans la galaxie terroriste. Non. Ils ne sont pas gênés de le faire en Argentine, par exemple. Le bilan était beaucoup plus sanglant. Mm-hmm. Donc l'Iran a, par la terreur, par les attentats, par les prises d'otages, dont ce sont des spécialistes, je vous rappelle qu'il y a 4 Français qui sont aujourd'hui aux oubliettes à Téhéran, 4 Français qui ont été faits aux pattes, qui sont aujourd'hui des otages d'État, hein, à Téhéran. Par le terrorisme et par la prise d'otages, les Iraniens ont intimidé les Occidentaux. Et puis par leur proxy...
Alors les proxys, c'est des alliés satellites.
Ils intimident le Moyen-Orient.
Non mais faut expliquer ce que c'est proxy, parce que c'est une espèce de jargon de journaliste.
Oui, vous avez raison. Par les milices qu'ils arment, qu'ils instrumentalisent, le Hamas en Palestine, le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen.
D'accord. Joseph Massescaron, comment est-ce que vous voyez cette attaque menée par l'Iran ?
Ce qui me frappe dans la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est que ça me ramène, moi, au fait que l'Occident a toujours joué, à mes yeux, un jeu trouble par rapport à l'Iran et par la situation là-bas. À moins d'avoir une mémoire de poisson rouge, je me souviens combien de fois j'ai pu entendre un certain nombre de collègues m'expliquer, parce que advenait une présidentielle en Iran, que, oui mais attention, c'était des mollahs un peu plus modérés, un peu plus ceci, un peu plus cela.
Oui.
N'est-ce pas ? Nous-mêmes, d'ailleurs, nous-mêmes Français, on n'oubliera jamais qu'on a quand même commis le péché originel par rapport à l'Iran. Il faut quand même le rappeler.
On a accueilli l'Ayatollah Khomeini.
Une personne ici célèbre souvent, évidemment, la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing. Quand même, on a commis, il faut le dire avec force, le péché originel par rapport à l'Iran.
Ne l'oublions pas.
Et il faut qu'on l'assume. Voilà. Et bien oui, il faut l'assumer. Donc il n'y a pas que l'extrême gauche qui, bien évidemment. Donc il y a un jeu trouble par rapport à l'Iran. Et c'est vrai que ça n'aide pas à comprendre la situation.
Moi, Nadja Farion, vous voulez réagir.
Moi, je voulais juste revenir sur ce que vous aviez dit juste avant. Je pense qu'il faut qu'on soit très prudent sur les mots qu'on emploie. Parce qu'en fait, chaque mot qu'on va dévier un tout petit peu permet la propagande du régime. Et donc, typiquement. Très facilement, on va dire, ils ont attaqué l'ambassade en Syrie. Et je pense qu'il est très important de revenir là-dessus parce que les Iraniens, donc les 85 millions d'Iraniens, n'ont pas du tout vu l'attaque d'une ambassade iranienne. Il faut bien avoir conscience qu'aujourd'hui, le régime tient grâce à une colonne vertébrale armée, financière et terroriste qui s'appelle le corps des gardiens de la révolution islamique. Et que ce corps des gardiens de la révolution islamique, qui détient plus de 60% des richesses du pays, a une unité qui s'appelle Al-Quds et qui est donc l'unité étrangère qui s'occupe de financer le terrorisme, d'entraîner les terroristes. Donc on sait qu'il y a à peu près entre 400 et 500 terroristes du djihad islamique palestinien et du Hamas qui ont été entraînés à Téhéran. Et donc c'est vraiment cette unité qui est cachée à ce moment-là dans cet immeuble, qui n'est pas le consulat, c'est une annexe du consulat. Nous, en tant qu'Iraniens, 10 minutes après, on a le consul qui fait une interview à la télé, il n'est même pas décoiffé. Donc si vous voulez, on a vraiment une frappe ciblée parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il y a plusieurs terroristes réunis au même endroit et nous, en tant qu'Iraniens et à l'intérieur du pays, on a remercié cette frappe puisqu'on a quand même affaire...
Vous avez raison de le préciser. Tout dernier mot, Vincent, avant la pause.
Pardonnez-moi, mais sérieusement, c'est un peu de la casuistique juridique. Il n'y a plus de statut diplomatique, il n'y a plus d'extraterritorialité des ambassades. Il y a des accords de Vienne qui disent que, en fait, c'est les diplomates qui ont la semelle de leurs chaussures et qui, eux, ont l'immunité, qui assurent l'immunité de l'ambassade.
Okay.
Les sept des gardiens de la Révolution qui ont été tués, il y en a 7 d'entre eux qui avaient le statut diplomatique. Ce bâtiment était couvert par une sorte d'immunité diplomatique.
On va continuer à débattre de des implications de cette attaque de l'Iran contre Israël, y compris sur notre sol, dans un instant, juste après une petite pause. Dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, à tout de suite.
18h-19h sur CNews et Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari. Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.
18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Louis de Ragnel, j'aimerais revenir avec vous sur un mot qui revient dans le discours de tous les dirigeants internationaux qu'on a entendu s'exprimer depuis dimanche, que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit en Allemagne, que ce soit même en Russie, Dimitri Peskov. Attention à l'escalade, il faut de la retenue. C'est le mot à la mode. De quoi ont-ils peur, finalement, vis-à-vis de l'Iran ?
Il aurait été étonnant d'entendre ces dirigeants appeler à la destruction de Téhéran et de l'Iran. En revanche, là où je vous rejoins, effectivement, c'est que la désescalade est devenue un peu le cache-nez de, enfin, c'est une manière très hypocrite, en fait,
De dire on fait rien contre l'Iran.
Surtout, on ne fait rien. Mm-hmm. On appelle systématiquement Israël, qui, pour la deuxième fois, en l'espace de quelques mois, a été attaqué. On empêche les Israéliens de se doter d'une capacité à riposter avant même qu'ils aient eu la possibilité même de le faire. Et donc, moi, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie et de lâcheté. Puis, avec, un paradoxe, vous avez un Olaf Scholz, le chancelier allemand.
Ah oui.
Qui se retrouve avec les mêmes mots que ceux du Kremlin. Enfin, ça donne lieu quand même à des.
Il y a des alignements qui sont
paradoxes
surprenants, le François Pouponi.
C'est un peu surréaliste, parce que ce qu'a fait l'Iran est gravissime. Envoyer 300 missiles, roquettes sur un pays souverain, et on demande à ce pays, soyez gentils, n'en faites pas trop, restez calmes, vous êtes bien défendus, c'est déjà bien, voilà. Quel pays accepterait ça? De quel pays on accepterait?
On leur demande de dire
je suis bombardé, mais je vais rien faire parce que je n'ai pas d'escalade. Bien entendu, de toute façon, la journaliste a dit tout à l'heure, le peuple israélien et le gouvernement israélien veut riposter. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils l'ont fait après le 7 octobre, ils sont obligés de le faire là, parce que c'est un événement d'une extrême gravité. On verra quel niveau de la riposte.
Où, quand, comment, l'intensité de la riposte.
Mona Jafari, on a entendu le président Macron, qui était ce matin invité d'autres confrères, disant il faut des sanctions contre l'Iran, il faut isoler l'Iran sur la scène internationale. Tout ça existe depuis des dizaines d'années, ça ne fonctionne pas. Pourquoi appeler encore à la retenue vis-à-vis de l'Iran?
Parce que malheureusement, on ne comprend toujours pas en fait que l'identité même de ce régime est une identité terroriste. Et moi, je le répète sans cesse, si on pouvait négocier avec des terroristes, on n'aurait jamais inventé le GIGN, déjà. Ensuite, il y a quand même un gros problème avec cette vision occidentale du problème de la République islamique, c'est qu'on est persuadé qu'en ayant une désescalade, en allant un peu dans leur sens, on va calmer la bête. Sauf que toute l'histoire de la République islamique nous montre que c'est toujours dans les temps où on a été le plus répressif avec eux qu'ils sont restés les plus calmes. Et là, il y a encore 3 jours, l'Europe retirait de la liste des sanctions la société qui permet aujourd'hui de censurer le peuple iranien, de couper les réseaux Internet. Nous, ça fait 1 an et demi qu'on leur dit, mais classez le corps des gardiens de la Révolution islamique sur la liste des antiterroristes de l'Europe. En plein guerre Hamas-Israël, Joe Biden libère 10 milliards en novembre, encore 10 milliards il y a 2 semaines à la République islamique. La désescalade et la politique du en même temps, c'est ça, allons financer tous les terroristes et demandons-leur de se calmer derrière, c'est pas possible.
C'est une preuve de faiblesse des démocraties occidentales, Vincent Hervouet, selon vous.
De prudence.
Mais est-ce que ça veut dire faiblesse ou pas?
La réalité, c'est que les Iraniens demandent ça. C'est ce qu'ils réclament.
Qui? Lesquels? Ceux du régime ou les de la population?
L'affaire est close, le dossier est refermé.
D'accord, le régime.
La défense est donc qu'Israël se contente d'avoir, qu'on lui ait assuré sa défense, en mettant toujours en avant l'action des Américains, des Britanniques, des Français, des Jordaniens, bien sûr, la collaboration des Séoudiens aussi. Alors qu'en réalité, c'est quand même, pour l'essentiel, la défense israélienne qui a fait le boulot.
90%.
On demande de se contenter de ça, de s'être défendu. Et les Iraniens aujourd'hui répètent dans le principal quotidien du régime que c'est une première et que ce sera désormais ça la ligne. Que désormais ce sera comme ça que ça se passera. Mm-hmm. Que c'est la nouvelle stratégie iranienne, que toute attaque contre l'Iran obtiendra une riposte immédiate de bombardement contre Israël.
Et donc, c'est un changement de doctrine donc.
Oui, il y a un changement de doctrine, évidemment. Il s'est passé quelque chose d'important samedi soir. Même s'il n'y a pas de mort, même si on a l'impression d'assister à une scène de théâtre, avec le fait d'avoir prévenu tout le monde à l'avance, qui est le cœur unanime aujourd'hui, c'est du théâtre, mais c'est quand même quelque chose de fondamental qui vient de se passer.
Monsieur François Pouponi, Rachel.
Je pense que c'est une preuve de faiblesse. On a fait la même erreur avec, avec le Hamas.
La même chose que vous.
On a laissé le Qatar, la Turquie financer le Hamas en disant mais ça va les calmer, vous inquiétez pas, nous on va pas s'en occuper parce que nos amis s'en occupent. Et à la fin, le Hamas passe à l'acte sans prévenir trop l'Iran d'ailleurs, qui les mettent un peu dans le fait accompli. Et donc cette logique-là de dire on va essayer de les amadouer, on voit
ça ne marche pas. Voilà. Ça n'a jamais marché.
C'est la philosophie, de l'équipe Biden, tout ça.
Oui, c'est vrai. Mais c'est...
Et alors, on parlera de Trump dans un instant. Joseph Massescaron, il rachète.
Oui, je suis quand même frappé par le fait que, parce que là, évidemment, bien sûr, nous parlons de l'Iran, mais l'Iran quitte nos... Enfin, on ne le voit plus... mis à part évidemment cet événement qui s'est passé, alors que cette société iranienne civile se défend contre un régime totalitaire. Je suis frappé historiquement que c'est la première fois que dans un système totalitaire, car la nature du régime iranien est totalitaire, théocratique et totalitaire, une société civile existe et existe pleinement. Non seulement elle existe pleinement, mais je veux dire une chose, pardonnez-moi, c'est qu'elle sert, elle est en train de servir de modèle hors les frontières. Moi, je suis frappé, j'ai passé quelques jours, à peu près une semaine en Turquie, et je suis frappé d'avoir vu réellement des jeunes qui spontanément m'ont parlé de la jeunesse iranienne. Quand on connaît quand même les rapports entre la Turquie et l'Iran, et moi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Or, donc, il se passe quelque chose
de fondamental
qui est, et nous n'en prenons pas la mesure. Ouais. Nous ne
Les jeunesses peuvent commencer à se soulever.
La jeunesse va renverser les mots-là.
Bien sûr.
C'est ça.
Contrairement à ce que vous pensez, le peuple iranien est aujourd'hui la meilleure arme pour faire tomber le régime. Et contrairement à la vision qu'on a en Occident, Israël l'a très bien compris. Nous, on a 20 ans de retard. Ils ont des équipes qui sont persans, qui sont iraniens. On a une chaîne du ministère des Affaires étrangères israélien en persan. On a une chaîne de l'armée israélienne en persan qui rassure en permanence la population, qui leur dit si riposte il y a, vous serez à l'abri, vous n'êtes pas notre cible, nous savons
bien que... Bien sûr, mais les mots-là sont toujours là et tiennent.
Mais enfin, vous savez qu'il y a encore un an et demi, ils étaient au FMI en train de réclamer 7 milliards. Mais Joe Biden a remis un petit coup pour les aider à, à l'intérieur même du régime.
Nous ne sommes pas dans, dans le même cas de figure, que
Joseph Massescaron, après Rachel.
Parce que la société civile russe ne bouge pas comme bouge la société iranienne. Et je le redis, cette société iranienne, moi j'étais frappé, est en train de servir de modèle à d'autres jeunesses.
Dans le monde entier. Oui, Rachel.
Tout à fait, je suis entièrement d'accord. C'est un phare dans la nuit, cette jeunesse. Et puis pour revenir aussi à Israël, ce que Israël a bien compris, mais c'est tout à fait logique, puisque Israël n'est pas simplement un pays, c'est le symbole de la démocratie dans cette région-là. C'est le symbole d'une population mosaïque aussi. Vous savez, il y a cet adage qui dit lorsque vous avez deux rabbins dans une pièce, il y a trois avis différents. C'est ça, cette démocratie-là, de cette liberté-là. Et malheureusement, en France, la propagande, en fait, du régime iranien imbibe notre société à tel point...
Et est relayée par certains partis politiques.
Et quelque chose de très grave qui s'est passé samedi dans le week-end, c'est au niveau de Wikipédia.
Qu'est-ce qui s'est passé
Sur Wikipédia, vous savez, c'est cette encyclopédie collaborative.
Sur Internet.
Dans toutes les langues, en anglais, même en arabe, on parle de l'attaque de l'Iran par rapport à Israël. Eh bien, en français, on parle de l'opération Promesse Honnête. Donc, ils reprennent, c'est le nom de l'opération, donc c'est le nom. En fait, ils reprennent le langage véritablement de ce régime.
Wikipédia est complètement gangréné par les islamistes, par l'extrême gauche.